Chapitre 9. En dépit des protestations de sa tante, Florita voulut passer la nuit dans un fauteuil près de la malade. D'ailleurs, elle n'aurait pu dormir. Les révélations de Pepita l'avaient bouleversée en lui ouvrant des horizons insoupçonnés. Mais surtout, l'idée que son vieux logis servait de repère aux pirates allemands l'exaspérait. Ah, que l'on pût les chasser de là! Oui, fallut-il même détruire tout! Mais pour cela, il était nécessaire qu'elle échappât à ses geôliers, qu'elle avertît les autorités militaires, afin qu'on prît au gîte l'ennemi. Et cette Elsa, cette misérable Elsa, une espionne allemande, quelle peine en éprouverait la pauvre marquise quand elle le saurait. À son égard, à celui de Mulbach, Florita ressentait le plus profond mépris. Car la déshonorante hypocrisie, la cynique violation des lois morales, les marquait d'un infamant stigmate à l'exemple de leur patrie. Ainsi donc, pensait-elle en frémissant, je vivais au milieu d'ennemis farouches de mon pays. Les Ulrich Mulbach, eux aussi, jouent sans doute un rôle là-dedans, et ma pauvre tante était une complice. Tout son sang de Française, descendante d'une race d'ardents patriotes, bouillonnait à cette pensée. Au matin, Pepita semblait un peu mieux. Cédant à ses instances, la jeune fille alla s'étendre sur son lit et se reposa pendant une heure. Puis, profitant d'un moment où Anna était occupée près de sa maîtresse, elle quitta le château et gagna rapidement le village. Au presbytère, elle trouva le curé, à qui elle fit part du désir de sa tante. « Il faut tâcher d'entrer sans que la femme de chambre vous aperçoive, » ajouta-t-elle. « Autrement, elle serait capable de nous faire des ennuis. »« Eh bien, allons, mon enfant, nous verrons bien si cette personne veut nous empêcher, du moment où Madame Mulbach me demande. » Tandis qu'ils se préparaient rapidement, Florita dit à Caroline Dussault, « Je crois que le moment approche où je mettrai à profit l'aide que vous m'avez offerte. Il faut plus que jamais, pour bien des raisons, que je fasse tout mon possible pour fuir d'ici. Je suis à votre disposition, mademoiselle. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, je ne tiens plus guère à ma pauvre vie, et je serai bien heureuse d'être utile à une jolie Française comme vous, si brave et si bonne. » Quelques minutes plus tard, Florita reprenait le chemin de Vanel en compagnie du curé. Elle le fit entrer dans le château, simplement, sans se cacher. Madame Stillman, qu'elle croisa en passant, dans le vestibule, la regarda d'un air surpris, mais ne fit aucune observation. Au premier étage, Florita introduisit le prêtre dans le salon, puis alla prévenir Pepita. Presque aussitôt, elle revint en annonçant. « Ma tante vous attend, monsieur le curé. » Tout jusqu'alors s'était fort bien passé. Anna demeurait invisible. C'était l'heure où, à la cuisine, elle buvait un bol de lait au rhum pour se fortifier, disait-elle. Mais comme Florita et le prêtre qu'elle reconduisait sortaient de l'appartement de Madame Mulbach, la femme de chambre apparut montant l'escalier en hâte. Sans doute quelqu'un l'avait-il prévenue. Arrogante et furieuse, elle s'exclama, s'adressant au curé. « Que venez-vous faire ici? Qui vous a permis ?» Mais Florita, hautaine et froide, riposta. « Cela ne vous regarde pas, Anna, et veuillez prendre un autre ton, je vous prie. »« Un autre ton? C'est assez bon pour des Français, et je sais bien ce que va dire monsieur quand il saura cela. » Dédaignant de répondre, Florita l'écarta d'un geste fier et descendit avec le prêtre. Celui-ci fit observer à mi-voix, « Vous aurez des ennuis avec monsieur Mulbach, ma pauvre enfant. » Elle eut un geste d'indifférence. « Qu'importe, un peu plus, un peu moins, je fais mon devoir, advienne que pourra. » En quittant le curé dans le vestibule, la jeune fille entra dans les salles d'ambulance. Elle voulait aller voir ses blessés français qu'elle avait dû négliger hier à cause de sa tante. Au passage, mademoiselle Frida lui dit d'un ton aigre doux, « Si vous avez affaire près de madame Mulbach, mademoiselle, ce n'est pas la peine de venir vous fatiguer ici. Nous suffirons quand même à la besogne. » Florita répondit froidement, « Je vais simplement m'informer de l'état de mes compatriotes, car en effet la santé de ma tante ne me laisse pas beaucoup de loisirs. » Et elle passa, suivie par le regard mauvais de Frida qui murmurait, « C'est moi qui empêcherai cette Française de venir ici à la place du major, et surtout de s'occuper des blessés de son pays. Mais il en est toqué, l'imbécile. Je suis sûre qu'il ferait pour elle toutes les sottises. » L'entrée de Florita dans la salle des blessés français fut accueillie par trois exclamations joyeuses. « Ah, mademoiselle, enfin, ça semblait long sans vous voir. » Les deux nouveaux tournèrent les yeux vers elle, et l'un d'eux eut une sorte de cri étouffé. « Florie !» Elle le regarda, tressaillit, s'élança, la parole coupée par l'émotion. Ce pâle visage, ses yeux enfoncés dans l'orbite, quel changement! Et pourtant c'était lui, son Alain, son fiancé. Elle se pencha, mit ses lèvres frémissantes sur le front brûlant. « Alain, mon Alain chéri !»« Ma petite fleur, toi ici, par quel miracle !»« J'y suis avec ma tante. C'est le château de Vanel, le château de Maurice. »« Oui, je sais, j'ai reconnu, mais je ne comprends pas. » »« Je t'expliquerai, mais parle-moi de toi. Où es-tu blessé? Qu'as-tu ?» Il eut un mélancolique sourire. « Chéri, ton fiancé maintenant est un mutilé. Le major a dû m'amputer d'urgence le bras gauche hier soir. » Ton bras, oh mon bien-aimé. Agenouillée près du lit, elle appuyait sa joue contre le visage d'Alain en frissonnant. Il murmura. Tu voudras bien encore de moi, ma Florie? Tu m'aimeras quand même? Si je t'aimerais, oh 100 fois plus, mon Alain. D'ailleurs, tu me connais trop bien pour en douter un seul instant, dis. Oui, ma fleur, je sais quelle âme est la tienne, ardente, généreuse entre toutes. Ses lèvres se posaient longuement sur le front de la jeune fille. « Mais dis-moi, toi, comment tu es ici? Que s'est-il passé depuis ces mois où nous n'avons plus eu de tes nouvelles? Ce serait trop long à te dire aujourd'hui, Alain. Je suis surveillée, en quelque sorte prisonnière, moi aussi. Je ne puis demeurer trop longtemps ici sans exciter la méfiance. Mais je vais te raconter le plus important en peu de mots. » Elle se releva, et se tournant vers les autres blessés qui regardaient cette scène avec stupéfaction, « Mes amis, le capitaine de Pinvalas est mon cousin et mon fiancé. Mais il y aurait les plus grands risques pour lui et pour moi si on savait cela ici. Donc je vous demande le secret. » Ils répondirent tous d'une voix. « Nous vous le promettons, mademoiselle. » Alors rapidement, Florita fit à l'officier un bref exposé de la situation. Il dit tout bas d'un ton douloureux. « Ma pauvre chérie, mais c'est affreux, comment vas-tu t'en tirer? Et moi je ne peux rien, rien. Ne te tourmente pas, ami, Dieu nous aidera. Maintenant je me sens plus forte que jamais puisque te voilà. À demain. Nous causerons encore quelques instants et je te dirai mes projets. » Alain prit sa main, la porta passionnément à ses lèvres, et la jeune fille, après quelques mots d'amitié adressés aux autres Français, quitta la salle. Elle croisa le major, qui la salua avec empressement. « Vous venez de voir vos compatriotes, mademoiselle. Ils ne vont pas mal, et le capitaine a très bien supporté l'amputation qu'il a voulu que je lui fasse sans l'endormir. » Florita répéta la voix tremblante. « Sans l'endormir ? » ?»« Oui. » Nous devons, m'a-t-il dit, donner à nos hommes l'exemple du courage devant la souffrance. C'est évidemment un homme très brave, très énergique. Et vous pensez le sauver? Quelle peine elle avait à maîtriser ce tremblement pour que le major ne s'en aperçût pas. Mais certainement, maintenant que l'opération est faite, il va se remettre très vite, car il paraît d'une constitution saine et robuste. Par exemple, il était temps, grand temps, de lui enlever ce bras. Quelques heures de plus et il était trop tard. Florita frissonna. En remontant, elle se répétait cette parole. Quelques heures de plus et il était trop tard. Son Alain, son fiancé. Une action de grâce montait de son cœur vers le ciel. Puis elle pensa, en frissonnant de nouveau. Pourvu que ce Reichensfeld ne connaisse pas sa présence ici, quel danger terrible ce serait pour lui. Le cœur serré par cette nouvelle angoisse, elle se rendit près de sa tante qu'elle trouva sommeillant. Alors elle s'assit près du lit et songea longuement. Apprendrait-elle à Pépita qu'Alain était là? Elle hésitait. Non qu'elle doutât de la sincérité du repentir de Madame Mulbar, mais celle-ci reconnaissait elle-même l'empire que son mari exerçait sur sa volonté. Lorsqu'il viendrait la voir, elle pouvait laisser échapper une parole imprudente. Non, il ne fallait pas risquer cela. Mieux valait garder le silence à ce sujet. Mais plus que jamais, elle pensait à préparer un plan de fuite pour le moment où Alain serait un peu remis. Elle le combinerait avec Caroline, qu'elle s'arrangerait pour voir dimanche, c'est-à-dire dans 3 jours. Un mouvement de Pépita interrompit les réflexions de la jeune fille. Madame Mulbar, tournant la tête, dit de sa voix affaiblie. « Ah, te voilà, Florie. Tu as vu les blessés, comment vont-ils? Assez bien, les pauvres gens. Il faudra leur porter demain des cigarettes et des gâteaux. Oui, ma tante, je les préparerai ce soir. » Pépita se tut un moment, puis elle pencha la tête pour se rapprocher de l'oreille de sa nièce. « Écoute. « Approche-toi encore un peu, car il ne faut pas qu'on m'entende. Tu peux avoir besoin de te défendre, ma petite fille. Tu l'as déjà fait efficacement en une autre circonstance. Il y a 2 revolvers chargés dans le tiroir de ce meuble. Otto les a laissés là en ayant d'autres avec lui. Prends-en un. Et s'il s'en apercevait? Ce n'est pas probable. En tout cas, tu sais qu'ils sont là. Prends-les en cas de besoin. » « « Oui, chère tante, ne vous tourmentez pas à mon sujet, restez bien tranquille, maintenant que votre conscience est en paix. » Madame Mulbar considéra un moment avec émotion le charmant visage tout proche du sien, puis elle murmura « Florie, je suis presque contente de mourir. Maintenant, ce me serait un martyr de vivre près d'Otto. Oui, je serais contente si je ne te laissais pas seule, exposée à tant de périls. » Elle caressa lentement les cheveux de sa nièce, puis elle demanda « Monsieur de Reichensfeld ne se lève pas encore ?»« Non, heureusement, comme cela je n'ai pas à le voir. » Et la jeune fille ajoutait en elle-même « Ni à craindre une rencontre entre Alain et lui pour le moment. » Madame Mulbar songea un instant, les yeux fixés sur un grand portrait d'Elsa suspendu au mur en face du lit. La jeune femme y était représentée en toilette de bal, et le peintre avait su rendre assez bien le caractère étrange, un peu inquiétant de cette beauté. Pépita dit à mi-voix « Prends garde à cette femme, surtout, chérie. Elle a tous les pires défauts de sa race, y compris l'hypocrisie, poussée au dernier degré. » « Oui, je sais. Il paraît que lorsqu'elle résidait ici, elle posait pour la dévotion, distribuait des aumônes. Elle était assez bien vue dans le pays, où on l'appelait la comtesse aux cheveux bleus. » Lui, Maurice, était regardé avec indifférence. « À propos de lui, je ne t'ai pas appris sa mort, survenue en novembre dernier. Otto m'avait défendu de te le dire, afin que tu ignores qu'on pouvait avoir des nouvelles de France. À Lille, on m'a informé de cette possibilité. J'ai même écrit à Madame de Pinvalas, espérant que peut-être ma lettre lui parviendrait. Mais je ne vous ai rien dit, comprenant trop bien déjà, à ce moment-là, que j'étais en quelque sorte séquestrée. » Madame Mulbar soupira en pressant la main de sa nièce. « Ma pauvre petite, et j'étais complice de tout cela, hélas. » Florita revit le lendemain matin son fiancé pendant quelques instants. Elle put achever de lui faire le bref récit de son existence depuis le début des hostilités. Alain sursautait d'indignation en l'écoutant. Ce misérable Mulbar, et ce Reichensfeld, dire qu'il est là, si près de moi, et que je ne peux rien. Par quelles angoisses nous avons passé, Florie, au cours de ces mois pendant lesquels aucune nouvelle de toi ne nous est parvenue. Enfin, il y a quelques semaines, grand-mère a reçu le petit mot que tu avais réussi à faire partir de l'île. Tu ne pouvais y dire grand-chose, malheureusement, mais enfin, nous savions que tu vivais, que tu étais bien portante. Et certes, nous ne nous doutions guère que tu te trouvais dans une telle situation, chez ta tante, chez ton tuteur. Quelle comédie ce Mulbar a joué depuis des années! Quel mal il a dû faire aussi à notre pauvre pays! Oui, et dire que ma tante était sa complice. Ah, si mon pauvre père vivait, quelle chose affreuse ce serait pour lui aussi, j'en suis sûre. » En quelques mots, la jeune fille également fit part à son fiancé de son projet de fuite, avec l'aide de Caroline Dussault. Et maintenant, il se joindrait à elle. C'était la seule chance qu'ils eussent d'échapper à Otto Mulbar et à Reichensfeld. Alain en convint, mais en ajoutant « Quel terrible risque tu courras là, ma pauvre chérie !»« Que veux-tu, ami? Nous n'avons pas le choix. J'en parlerai après-demain dimanche à Caroline. Et dès que tu auras repris un peu de force, nous aviserons à partir d'ici. » Le soir de ce même jour, Mulbar, prévenu par un mot que le major lui avait expédié la veille, arriva à Vanel. Anna, qui le guettait, eut avec lui un court entretien sur le palier. Après quoi il entra dans la chambre où Florita tricotait, près du lit de la malade. Les sourcils froncés, il jeta un mauvais regard vers la jeune fille, qui se levait et sortait sans le saluer. Elle se réfugia dans sa chambre et essaya de continuer son travail. Mais ses nerfs étaient trop tendus par tous ces événements et toutes ces angoisses. Elle finit par poser son tricot sur un meuble et se leva pour aller faire un tour dans le parc. Mais un coup fut frappé en ce moment à la porte, et celle-ci s'ouvrit avant même qu'elle eût dit d'entrer. Elle vit apparaître Mulbar, dont la physionomie n'avait rien d'avenant. Il dit avec dureté « Qu'est-ce que cette ridicule histoire? Comment t'es-tu permis d'aller chercher ce prêtre pour ta tante? C'est elle qui le désirait. Oui, oui, elle me l'a dit, mais je me doute bien comment cela s'est passé. Tu lui as imposé ton idée, tu l'as persuadée qu'elle devait avoir des torts. Et patati et patata, je vois cela d'ici. » Florita dit avec le même glacial dédain. « Vous êtes libre d'arranger cela à votre manière. Quant à moi, j'ai rempli mon devoir en accomplissant le désir de ma tante. » Otto fit deux pas vers elle, en la couvrant d'un regard courroucé. « En voilà assez. Tes airs arrogants depuis quelque temps ne sont plus supportables. Tu oublies trop que je suis ton oncle et ton tuteur. Puis aussi que, française, tu es entre les mains des Allemands. Je te ferai souvenir de tout cela, Et d'abord, je te défends de sortir seule hors des limites du parc. Je t'ai évité le camp de concentration, ce que méritait ta noire ingratitude. Mais je réponds de ta personne, et je dois prendre les mesures nécessaires. Ensuite, étant donné le rôle que tu as joué près de ta tante, je t'interdis également d'entrer chez elle jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu te sois montré plus convenable à mon égard. » Elle eut un vif mouvement de protestation indignée. « Quoi ? Vous feriez cette peine à ma pauvre tante malade, mourante ? C'est ta faute, je le lui ai dit un jour. Il faut que tu sois matée. Je choisis les meilleurs moyens pour cela, voilà tout. Et prends garde à toi, Florita. De gré ou de force, il faudra que tu plies, que tu perdes ta sotte fierté, ainsi que tes idées françaises, que tu comprennes et admires notre culture supérieure, nos vertus allemandes, le génie magnifique de notre race. Et tous ces crimes aussi, naturellement, tous ces parjures, ces mensonges, ces assassinats, toutes les horreurs dont, en dépit de vos précautions, un écho est parvenu jusqu'à moi. » Otto eut un rictus de fureur. Il s'avança encore, saisit le bras de la jeune femme, le secoua violemment. « Oui, tout, tout. Ah, tu me braves, mais tu verras qui sera le maître. » En dépit de la douleur éprouvée, Florita eut la force de ne pas pousser un gémissement, et son regard indigné continua de défier Mulbach. L'Allemand lui lâcha le bras et dit d'un ton de menace haineuse « Nous nous retrouverons. » Puis, tournant les talons, il sortit de la chambre. Florita se laissa tomber dans un fauteuil, toute frémissante. La lutte commençait, et cette courte scène laissait prévoir combien elle serait terrible. La jeune fille pensa, l'âme en détresse un instant. « Comment pourrais-je avertir Caroline maintenant, puisqu'il m'est interdit de sortir d'ici ?» Puis il y avait cette pauvre tante Pépita, que le misérable Mulbach empêchait de voir sa nièce. Il lui avait fait une scène, sans doute, pourvu que son état ne s'aggravât pas de ce fait. « Ah, au moins que je puisse continuer de communiquer avec mon cher Alain, » songea-t-elle en joignant les mains. « Que cet homme ne connaisse pas sa présence ici, quelle joie diabolique il en éprouverait. Quel bon moyen aussi pour lui de me faire souffrir davantage. »